Chapitre 21. Henri fente à la tour. Les morts sont parmi les vivants. La brocante croulait désormais sous les dettes et le comptable, alarmé, brandissait chaque semaine les charges impayées. La menace de faillite n'avait jamais été si pressante. Camille ne souhaitait plus que Mona vienne passer ses fins d'après-midi à la boutique, tant elle redoutait le sinistre spectacle d'éthylisme qu'offrait son mari. L'enfant insistait cependant. Ce jour-là, Paul avait éclusé tellement de vin rouge qu'il tenait à peine debout. Mais la présence de sa fille en train de faire ses devoirs à côté de lui l'astreignait à une dignité minimale. Il regardait au loin sans savoir quoi, quand il aperçut de l'autre côté de la rue un badaud élégant qui semblait vagabonder. « Tiens, » murmura-t-il dans un hoquet, « on dirait le client des figurines. » Mona leva instinctivement la tête. L'individu avait beau se trouver à une bonne trentaine de mètres, elle l'identifia tout de suite. C'était bien lui, et il s'éloignait d'un pas vif.
« Papa, c'est le moment de l'appeler et de lui montrer tous les bons hommes en plomb. Dépêche-toi, allez, papa !»«
Mais, ma chérie, » hésita Paul, « il faut laisser ce monsieur tranquille. Et puis non, ça ne se fait pas, je... »«
Arrête, papa !»
l'interrompit Mona d'un ton similaire à celui de sa mère.
« Tu te lèves, tu fais attention à bien rester debout et tu l'appelles. Dépêche-toi, bientôt il sera trop loin !»
Elle tira son père par la manche, ouvrit la porte, lui intima à nouveau l'ordre de mettre convenablement un pied devant l'autre et de héler l'homme. Paul s'y employa d'une voix fluette.
« Plus fort !»
le sermonna la petite. Et il s'exécuta. Son « Monsieur !» fit mouche. Le destinataire arbora en se retournant le sourire de quelqu'un qui a perdu son chemin. Mona eut à peine le temps de prodiguer ses dernières recommandations à son père que le promeneur était là, dans un costume vert pomme d'un grand couturier. Il avait la même extravagance de vieux dandy que lors de sa première visite 2 mois auparavant. « Ah » tonna-t-il sans même dire bonjour. « Comme c'est drôle. C'est moi qui vous cherchais et vous qui m'avez trouvé. »«
Entrez, entrez. Nous avons quelques moulages Vertouni en magasin, justement, » expliqua Paul, la laine chargée.
Et l'homme s'empressa d'examiner les objets éparpillés, notamment la figurine sur un banc, mise en scène par Mona sous le soleil en néon. Tout en menant sa petite enquête sur chacune d'elles, il raconta qu'avec les figurines Vertouni, il s'amusait à reconstituer des scènes de sa vie personnelle dans des dioramas de sa confection.
Les anciens ministres écrivent des mémoires et les sous-préfets des romans érotiques sous pseudonyme. « Moi, je mets ma vie en boîte. C'est bien plus drôle !» clama-t-il théâtral.
Puis il mima le galop d'un cheval avec une effigie de cavalier d'infanterie entre ses doigts pour évoquer son service militaire à Saumur. Il s'en était fait exclure après avoir provoqué un de ses supérieurs en duel, à qui il avait reproché d'être trop gros pour aller faire la guerre. À la fin de son histoire, il fouilla dans ses poches.
« Je vous prends les 15. Nous avions bien dit 50 euros pièce la dernière fois. »
« Eh bien, oui, » acquiesça Paul, soudain dégrisé.
« Alors voici 750 en liquide, c'est parfait. Et griffonnez-moi donc l'adresse sur un morceau de papier. Je n'ai pas Internet, pas de téléphone portable, mais j'ai encore des yeux pour lire. Et comme ça, vous n'aurez même pas besoin de m'interpeller dans la rue.
Je repasserai bientôt. » « Trouvez-moi d'autres Vertouni, surtout. Au revoir !» En arrivant dans les galeries du musée d'Orsay, Mona fut frappée par une toile vibrant d'un immense chaos d'énergie. Ce tumulte s'avérait bien peu compréhensible au premier coup d'œil. Mais grâce à sa capacité de discernement hors du commun, elle y perçut une scène de bataille entre des fauves et des guerriers. Elle attira l'attention de son grand-père sur cette pièce tourbillonnante. Le vieil homme reconnut alors, au stade de l'ébauche, la chasse au lion d'Eugène Delacroix, dont la version achevée en grand format était conservée à Stockholm. Ah, Delacroix! Henri l'avait certainement éludé trop négligemment. Du romantisme, il avait certes montré Goya, Friedrich et Turner dans les salles du Louvre. Il avait en revanche écarté Dante et Virgile aux enfers, la mort de Sardanapale et la liberté guidant le peuple. Fâcheuse omission. Car Delacroix avait été un des instigateurs historiques de l'expression des passions et de l'exacerbation des couleurs. Et puis il y avait eu sa rivalité romanesque avec Jean-Auguste Dominique Ingres. Le premier vantait la puissance effusive des éclats chromatiques, ambitionnait qu'un tableau soit une fête pour l'œil. Le second opposait fièrement « le dessin est la probité de l'art ». Querelle de géants, à côté de laquelle Henri et Mona étaient passés sans faire étape. L'étude de la chasse au lion était l'occasion de rattraper ce rendez-vous manqué. Mais c'était une étude, et seulement une étude. En dépit de l'intérêt extraordinaire de cette œuvre, Henri se rabattit donc sur une alternative et conduisit Mona devant une toile d'imposant format, 160 cm sur 250. Au centre de la composition, et dominant celle-ci, trônait le portrait d'un homme en buste. Il avait une bonne cinquantaine d'années, le port distingué, altier même, le visage doté d'une fine moustache et d'un regard fuyant vers la droite du tableau. Ce portrait reposait sur le mur neutre, si l'on exceptait quelques discrets motifs linéaires rougeâtres, d'un intérieur dans un sobre cadre doré. Sous cette œuvre mise en abîme, un bouquet de fleurs aux pétales roses surmontait une petite table circulaire. Surtout s'étalait tout du long, sur deux rangées, une assemblée de 10 individus de genre exclusivement masculin et homogène dans leur apparence. 20 ans séparaient au mieux le plus jeune, qui n'était même pas trentenaire, du plus âgé. Tous portaient d'élégants costumes sans fioritures. Quelques variantes rythmaient l'ensemble. L'un pouvait s'être cerclé le cou d'un nœud papillon et son voisin d'une cravate. Ou bien une écharpe glissait le long des épaules d'un des modèles, tandis qu'un second arborait une pochette aux plis bouffants. Reste que le groupe dégageait une unité de style. Celui de la vie urbaine et littéraire, tout à la fois légèrement bohème par le négligé des cheveux et le naturel des poses, et extrêmement intense par la qualité des regards, majoritairement frontaux, 7 sur les 10. La rangée du fond était occupée par 2 duos distribués de part et d'autre du portrait central. Au premier plan, 4 personnages demeuraient assis, tandis qu'en seconde position, en partant de la droite, dans une espèce de profondeur intermédiaire, un modèle debout bénéficiait d'une plus grande visibilité. D'un blond roux flamboyant, plus ébouriffé que ses compagnons, il avait la veste ouverte sur son gilet, une lavalière lilas et une main dans la poche. Un autre homme, cette fois en 3e position en partant de la gauche, se hissait sur ses jambes, soutenu par une canne. Son corps était de profil, mais il tournait la tête vers le public, et cette rotation lui donnait beaucoup de prestance. En contraste avec sa vigoureuse masse noire, on trouvait dans son dos un jeune homme, baignant dans une ample et lumineuse chemise blanche, vissée sur une chaise. Il tenait une palette maculée de quelques couleurs. Mona examina ces personnalités réunies en hommage à un absent, lequel était pareil à un dieu dans ce dispositif rappelant les tableaux d'autel. Et elle comprit que cet absent était Eugène Delacroix. Son grand-père l'avait donc emmené le découvrir, mais celui-ci était le sujet du tableau du jour, et non son auteur. Quand il disparaît en 1863, attaqua Henri, Delacroix emporte dans la tombe un vaste pan de l'histoire de l'art. Il avait incarné le romantisme, avait fait souffler une formidable liberté sur les arts, au prix de scandales nombreux. Héros à sa mort, il avait commencé comme l'enfant terrible de la peinture. Mais la plupart des personnalités qui entourent son portrait pour lui faire honneur ne peuvent en avoir souvenir. Elles n'étaient même pas nées dans les années 1820, alors qu'on le qualifiait de sauvage ivre et qu'on le jugeait coupable de signer des tartouillades.
Celui qui a la chemise blanche, on dirait que c'est encore un jeune garçon. Et comme il tient une palette, c'est l'artiste du tableau, hein ?
Exactement. C'est Henri Fantin-Latour, dit Fantin. Il n'a que 28 ans, mais il est extrêmement doué. Il glisse son autoportrait au premier plan à gauche. Il joint à sa propre image 9 camarades. Et il ajoute l'effigie de Delacroix qui coiffe le tout. Celle-ci est, pour ainsi dire, une peinture de peinture, la représentation d'une représentation. Encore que, il n'existe en fait aucun portrait à l'huile montrant Delacroix de la sorte. Fantin a imaginé ce dernier d'après une photographie.
« Mais, Dadé, »
reprit Mona en indiquant les personnages assis au premier plan à droite de la composition.
« Regarde ses rides à celui-ci, et ses cheveux gris à celui-là. Eux, ce sont des vieux, alors. »
« Ils le sont moins à mes yeux qu'aux tiens. Mais en effet, ce sont les aînés du groupe, nés tous deux en 1821. Le premier, bras croisés et regard frontal, c'est l'influent critique Champfleury. Il était connu comme un défenseur forcené du réalisme de Courbet. Mais il avait également signé des livres très originaux, dont une histoire des chats, figure-toi. Autre amateur de félins, avec son grand front dégagé, voici le poète Charles Baudelaire, immense admirateur de Delacroix, dont il porte le deuil dans ses lèvres crispées et comme muettes. De l'artiste, Baudelaire écrivit pour lui rendre hommage « Quel est donc ce je ne sais quoi de mystérieux que Delacroix, pour la gloire de notre siècle, a mieux traduit qu'aucun autre. C'est l'invisible, c'est l'impalpable, c'est le rêve, c'est les nerfs, c'est l'âme. »
D'accord.
Mona, on s'en souvient, aimait répondre ainsi aux commentaires trop ardus. Delacroix a beau être montré comme un glorieux aîné, les personnalités qui l'entourent ne semblent pas vraiment faire partie de ses émules ou de ses disciples. C'est ce que les critiques de l'époque reprochaient au tableau. Je vais t'expliquer. Au premier plan, tout à gauche, est assis Duranty, qui est le rédacteur en chef du journal Réalisme et qui collabore avec Courbet. Debout, dans son dos, nous trouvons les artistes Louis Cordier et Alphonse Legros. En regard à l'extrême droite du cadre, encore un peintre sans grande envergure, Albert de Balleroy. On distingue aussi Félix Braquemont, complètement repoussé dans le fond et presque éclipsé. Lui est un extraordinaire graveur, ami de Baudelaire. On voit encore et surtout l'Américain Whistler, debout de profil juste à côté de Fantin, et dont le visage voisine presque avec celui de Delacroix. Whistler est bien décidé à bouleverser la peinture, et il y parviendra. Mais en traitant de la société moderne, des villes et du quotidien, ce qui paraît à rebours des ambitions romantiques. Et puis, l'atonie des attitudes et des couleurs, ça n'a rien de romantique. Partout, ce sont des bruns, des gris, des marrons.
Tu oublies quand même le bouquet.
Oui, d'autant plus crucial qu'il dégage la perspective jusqu'au portrait de Delacroix. Fantin s'illustrera d'ailleurs comme un grand peintre de fleurs. Mais s'il est demeuré célèbre dans l'histoire, c'est d'abord pour ses portraits de groupe de la vie artistique. La postérité lui saura notamment gré d'avoir figuré un coin de table, où, par bonheur, il peignit aux côtés de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud adolescent et encore inconnu. Mais c'est injuste de réduire Fantin à ses vertus documentaires. Son tableau a bien plus à faire qu'à nous informer sur la vie culturelle de l'époque.
Que dis-tu de la peinture elle-même?
Non de ce qu'elle montre, mais de ce qu'elle est, sa patte, sa touche. Henri écoutait la réponse de Mona avec une attention très soutenue. S'il était plus que jamais persuadé que le langage de sa petite fille recelait un secret, il constatait en outre que l'enfant avait développé une sensibilité aiguë pour la matière picturale. Celle-là qui donne, ou non, à toute création sa chair, sa pertinence, voire sa nécessité dans le tissu du monde. Avec des mots de plus en plus conscients et pétris de tout ce temps passé avec son grand-père,
Elle remarqua ainsi combien la facture, c'est le mot qu'elle prononça, était à la fois réaliste et cependant floue. Il corrigea ce dernier terme, parce qu'il sentait que le regard de Mona, ainsi que le vocabulaire qui en traduisait les subtilités, se formait solidairement d'une façon exceptionnellement rapide. « Suggestive », préféra-t-il à « flou ». Et la petite apprécia cette exigence d'adulte. « Et maintenant, Mona, vois-tu les proportions que donne Fantin Latour à Delacroix dans le tableau ?»«
Ce sont exactement les mêmes que s'il était vivant. »
« En effet, parce que Fantin considère que Delacroix est encore vivant. » Et c'est précisément cela que nous dit le tableau. Les morts ne nous quittent pas, ne nous abandonnent pas. Ils sont aussi importants que ceux qui restent. Cette période, aux alentours des années 1850-1860, fut passionnée de spiritisme et de croyances ésotériques. On pensait que l'on pouvait continuer à rester en contact avec les trépassés, les rappeler, les avoir parmi nous. Ce n'était pas du tout un divertissement folklorique comme aujourd'hui. On était sérieusement convaincu que l'esprit des défunts planait parmi les vivants, veillait sur leur jour et bordait leur nuit.
Si je comprends bien, ils s'en moquaient un peu d'imiter la peinture de Delacroix. Ce qu'ils visaient, c'était d'oser prendre des risques, comme Delacroix en avait pris.
Tu as tout compris. Disparu, nos aînés ne nous demandent pas de nous conformer à ce qu'ils ont fait. Ils nous disent juste d'être dignes de ce qu'ils furent. Mona médita longuement cette phrase et sentit poindre au niveau de sa cage thoracique une présence. Mais Henri interrompit son trouble naissant en reprenant son commentaire d'un ton enjoué. Je te l'ai dit, Delacroix, après avoir été l'homme des scandales, finit par être admiré dans le monde entier. Il se mit donc à siéger dans des jurys, et notamment celui du salon officiel. Or, un jour, en 1859, ce fameux jury d'admission reçut le tableau d'un garçon qui avait peint un ivrogne à l'air illuminé, avec à ses pieds une bouteille d'alcool, un buveur d'absinthe. Tous les membres trouvèrent ce tableau vulgaire et le refusèrent. À une exception. Delacroix, je parie.
Lui-même. Cela étonna d'autant plus les autres membres du jury que l'œuvre avait des accents très réalistes, contraires à ses convictions présumées.
Mais Delacroix en avait compris toute l'expressivité. Il ne se préoccupait guère de savoir si son sillon du romantisme était suivi. Non, il voulait surtout que son esprit rebelle survive parmi les nouvelles générations. Et manifestement, l'auteur de cette ivrognerie n'en manquait pas.
C'était qui ?
Et Henri, d'un geste lent, entoura à droite la seule figure dont il n'avait pas dit un mot. Celle à la capillarité blonde et broussailleuse, aux mains dans les poches et à la lavalière. «
Lui, dit-il comme on désigne un élu, Édouard Manet. »
« Manet. » soupira l'enfant. Ça sonne un peu comme Mona. Daddy, allons voir ces tableaux.
Non, ce sera pour une prochaine fois. Mais je te le jure, sur ce qu'il y a de plus beau sur terre, nous saurons lui rendre hommage.
Ils sortirent du musée d'Orsay, traversèrent la Seine. Comme Avril bourgeonnait, fondu dans l'herbe du jardin des Tuileries, les Parisiens conversaient et pique-niquaient. Il flottait une musique de printemps.